et une belle fin de journée à l'écoute d'Europe 1.
Ça a explosé la ville. Les gens se retrouvent sans lieu de vie. Ils ont perdu tout. Et les hôpitaux n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Le désespoir de centaines de milliers d'habitants de Beyrouth, 24 heures après l'explosion qui a fait, selon un dernier bilan, 113 morts, plus de 4000 blessés et des dizaines de disparus.
Une journée de deuil national et état d'urgence décrété pour 2 semaines. La solidarité internationale, elle, commence à s'organiser. La France a envoyé aujourd'hui du matériel et des sauveteurs.
Une catastrophe qui survient dans un contexte économique désastreux. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Pour reconstruire, il faut des matières. On est en manque, il n'y a pas de liquidité. Ça va être extrêmement long et compliqué.
Dans ce journal également, les pompiers qui restent sur le qui-vive dans la région de Martigues, vigilance maximale pour éviter les départs de feu alors que les flammes ont transformé le décor de carte postale en paysage lunaire. Et puis, pour lutter contre la reprise épidémique du Covid, il faut tester et dépister. C'est ce que l'on fait à Roissy en direction des voyageurs qui débarquent des pays à risque.
Douloureux, non. C'est 5 secondes. Mais quand on voit l'épidémie qu'on a, c'est pour bien-être collectif, pour mes proches, mes grands-parents, mes parents.
La Bourse de Paris termine en légère hausse ce soir, plus 0,89% à 4 933 points.
Sans oublier bien sûr la météo. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir à tous. Eh bien, la hausse des températures est confirmée et c'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud ce jeudi avec 38 annoncés par Météo France à Angoulême, à Mont-de-Marsan et à Cahors. Côté ciel, pas de changement. Grand beau temps pour tout le monde, à part quelques cumulonimbus sur la pointe bretonne. Je vous en dis plus tout à l'heure, comme d'habitude.
Le rendez-vous est pris, Valérie. À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lionel Gougelot, François Claus.
L'état d'urgence a donc été décrété pour 2 semaines au Liban, 24 heures après l'explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth.
Le dernier bilan qui nous est parvenu cet après-midi fait état, je vous le disais, de 113 morts et de plusieurs dizaines de personnes toujours portées disparues dans ce paysage d'apocalypse, dans les décombres des bâtiments du port ou des immeubles des quartiers environnants. Et en attendant les secours internationaux, eh bien les recherches se poursuivent. Clotilde Mravko, parce que l'un des ministres du gouvernement libanais se dit convaincu qu'il y a encore des victimes sous les amas de ferraille ou de béton.
Oui, et il est donc possible malheureusement que ce bilan s'alourdisse encore dans les prochaines heures. Après la sidération, Beyrouth commence à prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Les habitants balaient les décombres et tentent de sauver ce qui reste de leurs appartements. La tâche est immense, c'est le cœur de la capitale libanaise qui a été pulvérisée par le souffle des explosions. Partout, des carcasses de voitures jonchent les rues, des immeubles éventrés menacent encore de s'effondrer et rares sont ceux qui ont été épargnés. Le gouverneur estime que jusqu'à 300 000 personnes pourraient se retrouver sans abri, c'est la quasi-totalité de la ville. Les autorités évaluent les dégâts à plusieurs milliards d'euros et désormais il faut parer au plus pressé. Les hôpitaux manquent de matériel pour soigner les patients. 3 établissements ont dû être fermés car ils ont été endommagés par les 2 explosions. L'ONU craint également que les stocks de farine viennent à manquer. Les habitants se précipitent pour acheter du pain, retirer de l'argent, bref, tenter d'assurer pour les jours à venir qui s'annoncent douloureux dans la capitale libanaise.
Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient. J'ajoute que dans cette catastrophe, 21 Français ont été blessés à des degrés divers, ce qui entraîne automatiquement à Paris l'ouverture d'une enquête pour blessures involontaires.
Au-delà, Lionel, des images sidérantes que l'on a pu voir depuis hier soir, ce sont aussi les témoignages, ceux que vous avez pu entendre sur Europe 1 et qui disent bien le choc, le traumatisme vécu par la population de Beyrouth.
Écoutez par exemple Soha Boustany. Soha Boustany est libanaise, elle travaille à Beyrouth et elle est consultante pour l'UNICEF.
Les images sont tellement terrifiantes, ça a explosé la ville. Il n'y aurait pas eu la mer, je crois que Beyrouth aurait disparu. Juste autour de moi, avec mes amis, il n'y a pas une maison qui n'a pas été épargnée. Tous les quartiers de Beyrouth ont été vraiment sérieusement endommagés. Les gens se retrouvent sans lieu de vie. Ils ont perdu tout, absolument tout. Il y a un mouvement de solidarité qui s'est créé sur les réseaux sociaux. Il y a plein de volontaires, des bénévoles partout qui transportent les blessés. Ceux qui sont arrivés dans les hôpitaux, c'est ceux qui pouvaient à la limite marcher. Mais ceux qui sont aujourd'hui, c'est ceux qui sont sous les décombres. Et donc, les hôpitaux n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il n'y a pas assez d'ambulances. Il y a des gens qui se font opérer sans anesthésie. C'est dramatique. Il y a des gens qui ont été dans 5-6 hôpitaux pour être acceptés parce que les hôpitaux, finalement, ne pouvaient accepter que ceux qui étaient en danger de mort. Pour le moment, je crois que nous sommes atterrés. Nous n'avons plus de mots pour décrire l'indescriptible, quoi.
l'indescriptible, là, on sent dans ce témoignage-là d'une femme démunie, que c'est tout un pays qui est démuni face à cette catastrophe. L'aide internationale s'organise, notamment celle de la France, et Emmanuel Macron annonce qu'il sera dès demain à Beyrouth.
Oui, volonté de la France de marquer sa solidarité, effectivement, envers le pays. Alors, solidarité qui se concrétise matériellement par l'envoi dès aujourd'hui de secouristes et de matériel. Une réunion de coordination sur le sujet a d'ailleurs eu lieu cet après-midi à Matignon. Une aide d'urgence qui s'active donc depuis la France, mais aussi un peu partout en Europe et au Proche-Orient, Jeanne Pergamy.
Absolument, une aide venue de nombreux pays étrangers, mais aussi d'institutions comme l'ONU ou l'Organisation mondiale de la santé, et qui vient d'expédier des kits de traumatologie et de chirurgie. Trois avions français sont partis de Roissy ce midi. À l'intérieur, plus de 15 tonnes de matériel, un poste sanitaire qui permettra de prendre en charge au moins 500 blessés, et puis 55 militaires spécialisés dans l'évaluation du risque chimique, le sauvetage et le déblaiement. Ils sont là pour tenter de sauver, d'extraire des victimes coincées dans les décombres. Et c'est une course contre la montre, explique le lieutenant-colonel Michael Bernier. Il est porte-parole de la sécurité civile.
On est un peu dans une configuration de tremblement de terre, c'est-à-dire que vous avez eu des effondrements de bâtiments, et quand un bâtiment s'effondre, il ne s'effondre pas forcément et pas souvent complètement à plat, c'est-à-dire que vous avez des niches, des poches de survie où des gens peuvent être coincés. Vous pouvez avoir des gens qui étaient dans une pièce près d'un meuble qui les a sauvés. Vous pouvez aussi avoir dans l'industrie des poutres qui n'ont pas complètement ployé. Donc oui, il y a de grandes chances d'avoir encore des disparus en vie, même si toutes les heures qui passent compliquent la situation et amenuisent les chances de survie des victimes.
Alors pour venir en appui à ces recherches au milieu des ruines, l'Union européenne va envoyer une centaine de pompiers spécialisés, notamment depuis les Pays-Bas, la République tchèque ou encore la Grèce. Par ailleurs, de nombreux pays s'engagent à acheminer une aide logistique du matériel médical. C'est le cas de la Turquie, de l'Iran, de la Jordanie ou du Qatar. Et enfin, pour tenter de soulager les structures médicales totalement saturées, la Tunisie propose de faire venir une centaine de blessés pour les prendre en charge dans les hôpitaux du pays.
Merci, Jeanne Bergaoui.
Notre correspondante Clotilde Mafco l'évoquait tout à l'heure. Si vous avez acheté le quotidien Le Monde cet après-midi, vous avez sûrement été frappé par cette photo qui s'étale à la une. C'est l'une des images fortes de Beyrouth, ce gigantesque silo à blé, totalement éventré par l'explosion au milieu du port.
Et justement, cette catastrophe, elle risque d'avoir des conséquences pour l'approvisionnement en farine pour la population. Et ce n'est pas un détail, François, parce que dans un pays ravagé par la crise économique, la moitié de la population sous le seuil de pauvreté, 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition, eh bien ce drame risque d'aggraver encore la situation, parce que plus généralement, Olivier Samin, l'économie du Liban, on peut le dire, elle est en plein naufrage.
Oui, il est loin le temps où on comparait le Liban à la Suisse du Proche-Orient. La corruption et l'incapacité des dirigeants politiques à s'entendre pour mener les réformes ont fait plonger le pays dans une situation de banqueroute. Une dette publique astronomique, presque deux fois le PIB, une monnaie qui ne vaut plus rien, une pénurie criante de liquidités avec les conséquences qu'on imagine sur la population. 35% de taux de chômage, une inflation galopante qui frôle les 100% et du coup, un pouvoir d'achat qui s'est effondré ces derniers mois, frappant tout particulièrement la classe moyenne qu'on retrouve aujourd'hui dans les files d'attente des centres d'aide alimentaire. Comment un pays aussi affaibli va-t-il pouvoir se relever de la catastrophe d'hier? Le président du patronat libanais, Fouad Mokol, se dit très inquiet.
Pour reconstruire, il faut des matières. Je vous disais bien, on est en manque. Il n'y a pas de liquidité. Notre secteur bancaire, qui a souvent financé la reconstruction, n'est plus sur place. Le secteur productif non plus. Les entreprises ouvrent un jour ou deux jours sur deux. Un chômage dramatique. Donc, comment les personnes, comment les familles, comment les entreprises vont pouvoir se construire? Ça va être extrêmement long et compliqué.
Et pendant ce temps-là, les milliards de dollars d'aide proposés par le Fonds monétaire international sont bloqués. Motif: les négociations patinent avec le lobby bancaire qui détient une grande partie de la dette publique libanaise et qui refuse d'admettre ses pertes.
Merci Olivier Samin.
Et nous serons dans quelques instants en direct de Beyrouth avec le documentariste Arthur Saradan qui a passé la journée là sur le quartier du port qui était la nuit dernière dans les hôpitaux. Et nous serons également avec l'un des grands photographes de la guerre civile libanaise, Maher Attar, qui était dans le quartier de Djemaizeh juste au moment où l'explosion a eu lieu. Et puis 19h15, restez bien à l'écoute, Antoine Basbouze, l'un des grands spécialistes du Liban, évoquera avec nous les pistes éventuelles pour se relever de cette explosion qui a également balayé tout un système politique.
Europe 1, 18h09, la suite du journal, Lionel Gougelot, François Claus.
Dans la région de Martigues, les pompiers sont restés sur le qui-vive tout l'après-midi pour empêcher les reprises d'incendie.
Dans ce secteur, la situation semble globalement maîtrisée, mais effectivement, les soldats du feu sont toujours à la merci de départ ici ou là. C'est notamment le cas du côté de Rognac, où l'autoroute A7 a été fermée à la circulation dans le sens Marseille-Lyon. Au total, plus de 1000 hectares ont été ravagés par les flammes. Pas de victimes, mais en certains endroits, des dégâts très importants, Stéphane Frangy.
Oui, exemple sur le décor de cartes postales de Lens, des Tamaris. Le camping offre maintenant un spectacle de désolation à Vincent et à Paul qui ont tous les deux perdu leur caravane.
On est habitué à un paysage paradisiaque et là on a l'impression d'être sur la lune quoi. Il n'y a plus rien, plus de pain, plus rien. Puis l'horreur dans laquelle c'est passé.
Il reste seulement une tôle avec quelques torchons qui pendent et il n'y a plus de caravane, c'est tout plat, plus d'eau au vent, beaucoup de choses qui sont parties.
Et le parking voisin ainsi que quelques habitations dont celle de Patrick ont été touchées par les flammes.
Ouais, ma foi, j'ai perdu une 4x4, j'ai perdu deux remorques, c'est une moto, je suis là-haut dans la colline. Et la maison, il y a la moitié de la maison qui a brûlé aussi. Toute la toiture, elle a été emportée par le feu. Comment tu veux que je fasse ça? On va faire une assurance.
Dans l'attente de la constatation de son assureur, Patrick débarrasse les bouteilles de gaz qui jonchent la plage. Alors que les allers-retours de camions, de pompiers se multiplient et tous ici s'en rendent bien compte, le plus dur reste à venir.
Un reportage de Stéphane Frangier, l'un des correspondants d'Europe 1 en région PACA. Après les 170 millions d'euros débloqués au mois de mai dernier, Jean Castex annonce une enveloppe supplémentaire de 80 millions en faveur de la filière viticole. Des professionnels qui, on le sait, ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Des aides qui seront destinées à améliorer le stockage des surplus et augmenter la distillation des invendus. Pour limiter au maximum le risque de reprise de l'épidémie, le Conseil scientifique recommandait hier, on en parlait, de renforcer le dépistage, notamment en direction des voyageurs en provenance de pays à risque. Eh bien, un dispositif est mis en place à l'aéroport de Roissy et Diane Berger a pu assister ce matin à l'une des séances de dépistage.
Bonjour monsieur.
Alors, allez-y, passez par là.
C'est une nouvelle étape pour les passagers d'avion venus de pays à risque. Juste avant les contrôles de passeport, l'aéroport trie les arrivants.
Bonjour madame, vous avez votre test Covid ?
Non, je n'ai pas le test Covid.
Caroline vit aux États-Unis en Floride avec sa fille de 15 ans, mais elles n'ont pas réussi à obtenir de certificat à temps avant de rentrer en France.
72 heures pour avoir un test, c'est très très difficile. Et en Floride, en plus, il y a eu un ouragan, donc tous les tests de Covid étaient fermés. Là où on devait se faire tester, c'est très difficile.
Elles sont redirigées vers une zone spécifique de l'aéroport où s'activent une dizaine de personnes en combinaison blanche. Et sur son siège, Nathan, un jeune revenu d'un an aux États-Unis, a hâte de retrouver sa famille. Mais avant, un secouriste glisse un coton-tige dans son nez.
Ça chatouille, mais douloureux, non. C'est 5 secondes. Mais quand on voit l'épidémie qu'on a, c'est pour bien-être collectif, pour mes proches, mes grands-parents, mes parents.
Des parents qu'il devra éviter de voir au maximum tant qu'il n'a pas les résultats du test sous 24 à 48 heures.
Un reportage Diane Berger à l'aéroport de Roissy.
L'actualité sportive et le football notamment, contrairement à d'autres clubs de Ligue 1, le PSG semble pour l'heure épargné par l'épidémie de Covid. Le PSG qui peut poursuivre ses matchs de préparation.
Enfin, par les temps que court, il faut un peu croiser les doigts quand même. Hein. Mais notamment ce soir, ce match amical contre Sochaux au Parc des Princes. Julien Froment, c'est une ultime répétition avant le quart de finale de la Ligue des Champions, mercredi prochain contre Bergame à Lisbonne. Hein.
Oui, une ultime répétition, mais sans les artistes principaux, j'ai envie de vous dire ce soir, parce que Thomas Tuchel a décidé de ne prendre aucun risque, c'est-à-dire pas de Marquinhos, pas de Thiago Silva, pas de Neymar, ni de Presnel Kimpembe ou encore de Marco Verratti. Ce soir, on aura une équipe un petit peu mixte avec des joueurs en manque de temps de jeu, comme l'Espagnol Bernat qui va reprendre tout simplement dès ce soir. Ça sera ses premières minutes officielles pour l'Espagnol. Et puis il y a aussi, bien sûr, Abdou Diallo ou encore Pablo Sarabia qui, lui, sera titulaire face à Bergame la semaine prochaine. Et puis, on va aussi découvrir des jeunes joueurs comme le jeune néerlandais Xavi Simons ou encore un autre joueur qui est né en 2005, il a seulement 15 ans. Oui. Donc voilà, ce soir, un match assez particulier, à huis clos, entre le PSG et cette équipe de Sochaux.
Merci Julien Froment, au Parc des Princes pour Europe 1. Et puis l'autre information de la soirée, François, elle concerne le rugby et l'équipe de France, le 15 de France, qui recevra l'Irlande le 31 octobre prochain. La date est confirmée. Ce sera bien sûr en clôture du tournoi des Destinations. La victoire finale dans ce tournoi se jouera donc avec l'Angleterre, qui, quelques heures plus tôt, ce même jour, aura affronté l'Italie. 31 octobre donc, on a hâte.
Merci Lionel Gougelot pour ce tour complet de l'actualité. On vous retrouve à 18h30 pour les grands titres, mais d'abord la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Alors question simple Valérie Darmon, est-ce qu'il va faire beau et chaud ou est-ce qu'il va faire chaud et beau demain ?
Eh ben les deux, hein. Les deux, en général, c'est fromage et dessert, en fait. On a le temps qui est largement ensoleillé. Et c'est l'été, voilà, c'est l'été. Mais enfin, il fait vraiment, vraiment chaud quand même. On est au-dessus des normales de saison, là, maintenant, hein. Le temps qui est très, très ensoleillé sur tout le pays, dans une masse d'air qui continue à se réchauffer. Seule la pointe bretonne qui reste un petit peu dans les nuages. Et surtout, c'est le début de l'épisode des très fortes chaleurs sur l'ensemble du pays, en particulier en basse-vallée du Rhône, dans le sud-ouest, le Poitou, les Charentes, les Pays de la Loire et le bassin parisien. Les minimales restent encore un petit peu fraîches parce que pour elles, c'est la journée de transition, comprise entre 11 et 16 degrés, jusqu'à 22 autour de la mer Méditerranée, et le mercure qui grimpe au fil de la journée pour atteindre des maximales entre 29 et 36 sur la moitié nord, 31 et 37 sur la moitié sud. La côte bretonne et normande qui bénéficie de températures légèrement moins chaudes avec 23 à 26, mais ça ne va pas durer. Donc 38 annoncés demain à Angoulême, Mont-de-Marsan et Cahors, 37 à Bordeaux, 36 à Toulouse, 35 à Carcassonne, 34 à Paris, à Lyon et à Biarritz. Évidemment à l'ombre et sous abri, comme vous le savez déjà.
Eh bien oui, absolument. Il nous manque une chose, c'est la température de l'eau, mais ça, ce sera avec vous tout à l'heure à 18h30.
Europe 1. Et votre grand journal du soir revient sur Europe 1. François Claus avec votre invité dans un instant.
Oui, avec nos invités. Nous allons établir une liaison avec Beyrouth et comprendre ce qui se joue en ce moment même là-bas, ce qui se vit. À tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir. La suite avec vous, François Claus, et votre invité. On prend la direction de Beyrouth, au Liban.
Bonsoir Arthur Saradan. Journaliste, réalisateur, vous êtes à Beyrouth pour préparer une série. Vous avez passé la nuit dans le quartier du port, dans les hôpitaux de la ville, avec, on l'imagine très bien, des scènes insoutenables, difficiles à vivre.
Oui, en effet, des scènes qui étaient très difficiles hier soir à Beyrouth. Des milliers de blessés qui ont dû tous en même temps se rendre dans les hôpitaux de la ville qui était déjà saturée. Donc on a vu à l'entrée des hôpitaux des files entières, parfois d'enfants, de personnes âgées qui étaient ensanglantées, notamment à cause des dommages collatéraux causés par l'explosion, notamment les débris de verre qui ont causé de nombreuses séquelles chez les Libanais. C'était des scènes vraiment très impressionnantes et beaucoup d'infirmiers parlaient par ailleurs de scènes de guerre.
J'ai eu au téléphone aujourd'hui un ami de Beyrouth qui a vécu les années de guerre civile, qui a vécu le bombardement, les bombardements israéliens sur les quartiers sud à l'été 2006 et qui me disait « Mais jamais, jamais François, moi j'ai vu cela, c'est dire l'état de sidération de la ville aujourd'hui ».
Disons que le peuple libanais traîne avec lui une lourde mémoire, un lourd passé. Déjà d'ordinaire, quand quelques feux d'artifice explosent dans la capitale, on voit que les plus anciens sont inquiets. Alors quand une telle détonation résonne dans la capitale, c'est toutes les théories qui commencent à fuser. On a pu le voir aux premières heures de l'incident. D'abord, les personnes de mon quartier, par exemple, se souvenaient de l'attentat contre le Premier ministre Rafik Hariri, qui avait provoqué la même détonation et le même tremblement dans toute la capitale quelques années plus tôt. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, les guerres entre Israël et le Hezbollah, notamment parce qu'il y avait depuis quelques semaines des affrontements dans le sud du pays qui laissaient envisager une potentielle escalade que beaucoup craignaient. Et donc, effectivement, les décennies noires du Liban remontent lorsque ce genre d'incident se produit à Beyrouth.
Alors, restez bien avec nous, Arthur Saradan. Nous avons également en ligne, à l'instant même, Maher Attar. Bonsoir, Maher.
Bonsoir.
Vous avez été un grand photographe des années de la guerre civile pour l'agence Sigma. Vous êtes dans le quartier chrétien d'Achrafieh, quasiment juste en face du port. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'un seul coup hier en fin d'après-midi?
Bah écoutez, c'est vraiment aussi un jour noir en fait. Hier, j'étais tranquille, assis à la maison en train de travailler sur mon ordinateur. Et d'un seul coup, en fait, j'ai ressenti comme un tremblement de terre. En fait, ça a tellement tremblé. J'ai crié, j'ai paniqué d'un seul coup parce que l'immeuble a secoué. Je me suis levé et deux secondes après, en fait, j'ai essayé de courir vers la fenêtre. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu une explosion, la double explosion forte. Il était à peu près 18h10. C'était vraiment quelque chose de c'était la panique, c'était effrayant. Je n'ai jamais vécu ça. Moi qui ai vécu la guerre, qui a eu une balle dans la tête, une balle dans la jambe, j'étais photographe de guerre, mais je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais ressenti un truc pareil.
On a vu aussi immédiatement, et j'imagine que vous l'avez vécu, Arthur Saradan, des scènes de mobilisation de la population, venir en aide, faire ce qu'on pouvait face aux hôpitaux débordés que vous évoquiez.
Oui, justement, moi j'habite à côté d'un hôpital, en fait l'hôpital Rilke à Échraffinier. En fait, je suis normalement disons 3 km, 3 à 4 km, Vaudoiseau, là, de l'explosion. Mais c'était vraiment effrayant. Bah, excusez-moi, je suis un peu ému là parce que c'est vrai ce que j'ai vécu là aujourd'hui j'ai 57 ans, j'ai 25 ans de métier de photojournalisme. Ce que j'ai vu là à Échraffinier, en fait partout dans tout Beyrouth, parce que je me suis baladé aujourd'hui partout là, c'est infernal. C'est je veux dire ce qu'on voit dans la rue. Les gens, les corps déjectés, en fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais les bâtiments détruits, c'est un carcasse de voitures brûlées, des milliers de blessés. L'hôpital hier, j'entendais les gens crier en fait de l'hôpital, ils étaient bloqués dans leur chambre, en plus avec l'histoire de Corona et le confinement. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu.
On évoque, Arthur Saradan, vous êtes toujours en ligne avec nous, on évoque 300 000 personnes dans cette ville de 2 millions d'habitants qui sont aujourd'hui à la rue, tout simplement.
Oui, 300 000 personnes qui vont avoir besoin d'un logement d'urgence dans une économie qui est déjà dans une crise insoutenable qu'elle n'a jamais connue depuis l'époque de la guerre civile. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui habitants du Liban et qui ont connu cette période disaient avant l'explosion la situation économique était encore meilleure pendant la guerre civile. Donc, il va falloir que le Liban accède à une aide internationale conséquente, à la fois pour le relogement, mais aussi pour l'aide alimentaire. Parce qu'aujourd'hui,
malheureusement, la liaison, et parce que les réseaux téléphoniques ont dû être également affectés au Liban, est assez médiocre. Je vais retourner voir Maher Attar. Il va y avoir un problème d'approvisionnement aussi, puisque le port est la principale porte d'entrée des marchandises, de la farine notamment dans le pays.
Oui, justement, il y a ça, il va y avoir ça, il ne manquait que ça, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée noire dans notre histoire. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis en colère. C'est une colère sourde, si vous voulez, contre cette classe politique corrompue, pourrie, incompétente, qui se passe le pouvoir de père en fils depuis des générations. On va s'y attendre encore à des catastrophes encore au Liban. Les gens sont en train de crever. Il va y avoir plus de problèmes, que ce soit problème d'essence. Déjà, on n'a pas d'électricité depuis des jours, depuis trois semaines. Il n'y a pas de fioul, il n'y a pas d'essence dans les stations de service. C'est catastrophique.
Et cette colère, Maher, était déjà là, j'allais dire, à fleur de peau au Liban, où il y a eu des manifestations contre le système politique avant même le confinement, et même dès le début du déconfinement. Et demain, vous pensez que les responsables devront donner des comptes ? Rendre des comptes ?
Écoutez, j'espère qu'ils vont lâcher leur siège. Mais je crois pas. Ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont rien à voir, je sais pas comment vous expliquer ça. On a essayé par tous les moyens de leur faire comprendre qu'on veut pas de vous. Vous pouvez quitter, mais ils ne veulent pas. Ils sont attachés à leur pouvoir. Ils passent le pouvoir de père en fils depuis des années, depuis des siècles. Ils nous ont forcés. Moi, si vous voulez, j'ai passé mon ils ont déjà volé mon adolescence et ils m'ont forcé en fait à l'exil. Mon seul point, si vous voulez, d'ancrage était mes amis et plein d'autres choses, si vous voulez, à laquelle j'étais attaché au Liban. J'ai quitté pendant 25 ans. Je suis revenu. Ils sont toujours là. C'est les mêmes familles. C'est les mêmes dynasties. C'est les mêmes noms, notre famille, et ça passe le pouvoir du père en fils. Ils sont là. Comme aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir quelqu'un pour venir réparer, par exemple, les vitres et les fenêtres. Il a eu un coup de fil du fils d'un général dans l'armée qui l'a obligé de quitter. Il était obligé de quitter mon chantier pour aller réparer le chantier du fils de ce général. Donc ils sont toujours là, ils essaient de nous font peur, ces gens nous font peur, il faut qu'ils dégagent.
On entend ce soir votre cri, Maher Attar, et on le comprend très bien. À 19h15, nous serons avec le fondateur de l'Observatoire des Pays Arabes, Antoine Bazbouz. Nous évoquerons avec lui, évidemment, les pistes possibles pour qu'un Liban renaisse de ses cendres et de cette explosion. Un grand merci à vous, Maher Attar, d'avoir été en direct sur Europe 1.
Mais c'est moi. Excusez-moi, j'étais très ému qu'aujourd'hui, vraiment, on est vraiment triste. Je veux dire, Beyrouth est triste, Beyrouth est malheureuse, Beyrouth est détruite.
Et on mesure cette émotion. Grand merci également à Arthur Saradan, malgré la qualité médiocre de la liaison, d'avoir réussi à témoigner ce soir sur Europe. Et on vous souhaite à tous les deux pour les prochaines heures, évidemment, beaucoup, beaucoup de courage.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1. 18h27, la suite dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Le rappel des titres et le débat des grandes voix, François.
Oui, difficile de poursuivre le fil de l'actualité quand on est encore là sous le coup d'une telle émotion qui s'entendait à l'antenne, évidemment. Le débat des grandes voix, nous serons avec Chloé Morin, qui est directrice du département Opinion à la Fondation Jean Jaurès, et avec la psychothérapeute Hélène Morano. Et on va s'interroger, mais pourquoi donc les Français si sages pendant le confinement serait tout d'un coup réfractaire aux injonctions de santé publique qu'on leur lance, avec notamment cette obligation du port du masque de plus en plus généralisée dans l'espace public. On attend également vos avis, ça va être intéressant, au 39-21, le standard est ouvert pour vous.
Un impact, agissez avant qu'il ne fissure. Prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Et comme chez Carglass, on tient à ce que vous rouliez en toute tranquillité, pour toute intervention vitrage, on vous offre un an d'abonnement à l'application Coyote. Trafic, danger, limitation de vitesse, vous êtes alerté en temps réel. Alors, profitez-en.
Offre prolongée jusqu'au 15 août.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Tout y est beau, car tout y est intense. La Provence est un jardin ouvert sur la mer. Le Figaro hors série rend hommage à la terre de Giono, Pagnol, Mistral, à son histoire, ses villages, ses châteaux, ses traditions vivantes. Le Figaro hors série, Provence éternelle, la Toscane française. 164 pages magnifiquement illustrées, en kiosque actuellement.
Conforama, le confort pour tous.
Et si pour la rentrée, on faisait de la chambre de vos enfants un vrai terrain de jeu?
Avec le lit mezzanine Andy 90 cm en pin massif blanc à 189,99€ seulement. Construisez-lui un petit nid douillet en haut et une vraie aire de jeu en bas.
À chacun son projet rentrée. Conforama, jusqu'au 24 août, conditions en magasin et sur conforama.fr.
Peugeot présente les offres de l'été.
Aujourd'hui, nous sommes avec Julie, dont l'agenda est toujours bien rempli. Mais heureusement pour cette citadine toujours en mouvement, elle peut compter sur sa très chic Peugeot 108 avec caméra de recul pour sillonner la ville. Comme Julie, profitez de l'offre exceptionnelle de l'été avec la Peugeot 108 dès 69€ par mois et les 3 premiers loyers offerts. Sans compter que ce véhicule est toujours éligible à la prime à la conversion.
LLD 49 mois pour une Peugeot 108 neuve en stock, premier loyer de 3000€ jusqu'au 24 août sous réserve acceptation crédit par, détails sur Peugeot.fr.
Vous écoutez votre grand journal d'histoire sur Europe 1 avec vous, François Claus.
Et avec Lionel Gougelot pour le rappel des grands titres de l'actualité.
La journée de deuil national au Liban et état d'urgence décrété pour 2 semaines, 24 heures après l'explosion qui a fait, selon un dernier bilan, 113 morts et plus de 4000 blessés, des dizaines de disparus toujours dans les décombres. La solidarité internationale s'organise. La France a envoyé aujourd'hui des secouristes et du matériel. Emmanuel Macron se rendra à Beyrouth demain pour rencontrer le président, le Premier ministre. 21 Français ont été blessés à des degrés divers, ce qui entraîne automatiquement à Paris l'ouverture d'une enquête pour blessures involontaires. La tour Eiffel sera éteinte ce soir à minuit en hommage aux victimes. La ville de Paris, la région Île-de-France ont annoncé plusieurs aides financières pour les Libanais. Un geste pour la filière viticole. Jean Castex annonce une enveloppe supplémentaire de 80 millions d'euros pour soutenir les viticulteurs frappés par la crise sanitaire. Une somme qui s'ajoute aux 170 millions débloqués au printemps dernier. Le violent incendie qui a ravagé le littoral près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône est désormais maîtrisé, en tout cas sous contrôle. Les soldats du feu restent de leur côté très vigilants car ils sont toujours à la merci de départs de feu ici ou là. C'est le cas notamment à Rognac où l'autoroute A7 a été fermée à la circulation dans le sens Marseille-Lyon. La bourse de Paris en légère hausse de 0,90% à 4933 points à la clôture.
Merci Lionel Gougelot. Journal complet à 19h. Et pour être tout à fait complet dans ce rappel des titres de l'actualité, on va prendre, on en rêve nous qui sommes à Paris, la direction des plages, Tour de France. En commençant, Valérie Darmon, avec la Méditerranée, où le coup de Mistral, bel et bien refroidi. On a du mal à retrouver des températures de saison, Valérie.
Ah ben, dans l'eau surtout, bah oui, entre 18 dans l'Hérault et 24 dans les Alpes-Maritimes, elle a perdu 2 degrés en moyenne, la Méditerranée, mais elle va les regagner assez vite, là, avec la canicule qui s'annonce au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Alors, sur le sable, il va faire entre 30, par exemple, au Cap d'Agde, et 31 à Marseille, 29 degrés à Menton, sous un plein soleil, sans aucune surprise. Même chose, d'ailleurs, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, avec 27 degrés à Deauville, à Étretat, à Fécamp, 21 à Dieppe, 23 à Cherbourg, sur les plages normandes magnifiques, et dans l'eau entre 17 et 20 degrés, pas de risque d'hypothermie. Sur l'arc atlantique, très beau temps avec des températures en hausse, 29 annoncés à La Boule, 32 à La Rochelle, 32 à Lacanau, 30 degrés à Mimizan, 33 à Saint-Jean-de-Luz, pour un océan très très calme, entre 18 et 23 degrés.
Merci Valérie, hein, que c'est bon ces prévisions quand elles sont aussi estivales.
18h32 sur Europe 1, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir autour de vous aujourd'hui François. Chloé Morin, politologue et experte associée à la Fondation Jean Jaurès, et Hélène Morano, psychothérapeute. Vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas, au 39-21.
On attend évidemment vos appels sur ce thème très grand public. Bonsoir Chloé Morin.
Bonsoir.
Vous dirigez le département opinion au sein de la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que vos études confirment, Chloé Morin, que le message aujourd'hui autour du port du masque dans l'espace public a peut-être plus de mal à passer que les messages qui passaient au moment du confinement pur et dur ?
Oui, on se rend compte qu'en réalité, c'est très compliqué de faire passer un message qui est à géométrie variable selon les lieux où on en est, ou selon le moment. En réalité, on comprend que la stratégie est évolutive selon la circulation du virus sur le territoire. La première chose pour engendrer un suivi des gestes barrières, c'est la simplicité du message. Et aujourd'hui, ça n'est absolument pas simple, puisque selon qu'on est dans Paris ou sur la Côte d'Azur, on va avoir des consignes potentiellement différentes.
Et même encore plus différentes si on est sur les quais à Paris ou si on est finalement au cœur du 16e arrondissement tranquillement, où c'est peut-être pas obligatoire. En même temps, ça répond à ce qu'est l'évolution de l'épidémie, que d'essayer de justement aller, de cibler là où il y a plus danger.
Oui, mais la difficulté, c'est que en réalité, quand on voit le respect, par exemple, du confinement, tout le monde a dit finalement les Français ont été extrêmement disciplinés puisque ils ont respecté l'ensemble des règles qui étaient très contraignantes. Oui, mais à ce moment-là, il y avait une peur qui était extrêmement forte. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que un certain nombre de personnes sont fatiguées d'avoir peur et ont un sentiment de vulnérabilité qui est beaucoup moins grand, surtout quand ils sont jeunes, que les personnes âgées ou les personnes à risque. Et donc, finalement, la tendance à suivre les règles en matière de port du masque ou de gestes barrières est aussi indexée sur cette peur beaucoup plus individuelle, en réalité.
Et qui va, et on va le voir avec vous, peut-être générer un problème sur l'équilibre collectif de notre ensemble social. Bonsoir Hélène Morano. Bonsoir Hélène Morano.
Allô ?
Oui, vous êtes avec nous.
Alors moi c'est Hélène Romano, Morano c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave.
Non, excusez-moi.
Elle est loin,
Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute, vous intéressez justement à ce qui, dans l'inconscient, pourrait justifier un comportement ou non des Français. Et vis-à-vis du masque, vous constatez que ça coince également.
Ça coince pour différentes raisons. Il y a à la fois probablement un enjeu psychique et une forme de déni par rapport au risque, par rapport à la gravité. Mettre le masque, c'est reconnaître le danger. Ne pas le mettre, c'est rester dans l'illusion qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est une première explication. Il y a probablement aussi pour d'autres une difficulté à respecter la consigne et à être plus dans la transgression. Et quand on a été très stressé, quand il y a des injonctions un petit peu contradictoires des politiques, des décideurs, des soignants, des médecins, des scientifiques, c'est très compliqué pour les personnes de respecter. Donc il y a probablement ces deux dimensions qui sont à prendre en ligne de compte pour comprendre la résistance au masque.
On aurait accepté quelque part, Hélène Romano, d'être passif pendant le confinement, mais après de trop longues semaines de passivité, on veut redevenir finalement, j'allais dire, actif, et ça passe par une forme de rébellion ou d'expression plus forte de l'individualisme.
C'est tout à fait ça. Pendant plusieurs mois, les personnes ont été extrêmement respectueuses globalement des règles posées par le confinement. On les a déconfinées, pour reprendre l'expression d'usage. Mais du coup, maintenant, il y a un sentiment de liberté retrouvé. Et quand on entend certains dire que le masque est libéricide, on voit bien l'enjeu symbolique du masque qui vient juste cristalliser un besoin de la population d'être respectée et d'avoir l'envie d'être entendue. Et pour le coup, en mettant un masque, on n'est plus entendu, on n'est plus vu, et ça devient compliqué.
Alors restez bien avec nous, Chloé Morin et Hélène Romano. Nous avons pas mal d'appels ce soir au 39-21. C'est une question là qui touche directement les Français. On va prendre la direction de Lille, qui a été d'ailleurs l'une des premières régions de France à réimposer un masque dans l'espace public dans certains secteurs. Lille, où vous trouvez Jean-Philippe?
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Merci de votre fidélité à Europe 1. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces nouvelles obligations auxquelles vous êtes soumise à Lille?
Oui, donc moi, mon témoignage, je pense qu'il a été retenu, c'est parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis soignant, donc je suis kinésithérapeute à l'hôpital, donc je dois porter le masque à l'hôpital, et ça, c'est vraiment très, très important pour moi et pour les patients. Moi, je suis pour le port de masque à l'intérieur, dans le milieu clos, parce que là, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à l'extérieur, pour moi, c'est vraiment très difficile. Alors, je ne parle pas dans les lieux comme les lieux où il y a vraiment beaucoup de monde, comme la rue de Béthune à Lille, où là, vraiment, il peut y avoir beaucoup de monde. Mais par exemple, la Citadelle, où là, moi, je suis coureur, et porter un masque quand on court, je trouve ça mais complètement une aberration, ou quand on fait du vélo, alors qu'on sait que l'activité physique est nécessaire, et on sait que l'importance de l'activité physique, notamment dans le Covid, pour stimuler l'appareil immunitaire, c'est très très important. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour courir, pour faire une activité physique avec un masque.
Donc, oui, impossible, préfet, hein. C'est dur
moi,
de marcher même parfois seulement.
J'invite le préfet du Nord à venir courir avec moi avec le masque, faire 12 kilomètres, et on va voir si c'est vraiment réalisable. Et ce n'est pas réalisable.
Bon,
et
donc, on va lui proposer, Jean-Philippe.
Voilà,
on lui lance
voilà.
L'appel ce soir sur Europe voilà. 1 et on fera un reportage. Merci de votre témoignage. Chloé Morin, en entendant Jean-Philippe à Lille, on sent que finalement cette obligation collective entraîne comme si on ne nous responsabilisait pas. Que, Jean-Philippe nous dit, bon, ben, moi je suis assez grand pour savoir que là il y a du monde et que je peux mettre un masque, et que là il ne faut pas que j'en mette.
Oui, la difficulté, c'est qu'en réalité, on est une société où il y a une défiance horizontale, c'est-à-dire des citoyens envers les autres citoyens, une défiance très forte. Et pendant tout le confinement, c'était extrêmement frappant. Lorsqu'on mesurait la défiance, en réalité, on parlait de la défiance des citoyens vis-à-vis du gouvernement, qui avait l'air d'agir trop tard ou de ne pas agir de ne pas être à la hauteur des événements. Mais en réalité, il y avait aussi une autre défiance qui s'exprimait, c'était la défiance d'un citoyen vis-à-vis d'un autre, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à nos voisins, à nos aux gens qu'on croise dans la rue pour faire ce qu'il faut. Et donc ça a un impact nécessairement sur la manière dont on perçoit les autres et sur la manière dont on réagit lorsqu'on voit des gens qui ne portent pas le masque, etc.
Et d'ailleurs, Hélène Romano, alors je rappelle, Chloé Morin, que vous étudiez pour la Fondation Jean Jaurès les mouvements de l'opinion. Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute et vous vous intéressez au comportement. Vous sentez qu'il y a une forme, de fracture qui est en train de naître générationnelle. Il y aurait d'un côté des jeunes un peu irresponsables et des personnes âgées qui ne comprennent pas ce comportement des jeunes. Et est-ce que c'est dangereux pour notre équilibre social ?
Alors, il y a plusieurs fractures. Il y a une fracture culturelle. On est quand même un peuple qui a plutôt l'habitude d'être dans un rapproché corporel au niveau relationnel par rapport à des peuples nordiques. Et le masque et la distanciation qu'on nous impose du fait de la crise sanitaire bouleversent aussi ce rapport-là. Donc ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est celle, en effet, de l'investissement du masque qui est différent selon les générations, avec des personnes âgées qui sont probablement plus respectueuses de la consigne que les jeunes. Je ne dirais pas le terme irresponsable, parce qu'ils ont un autre rapport à la responsabilité et une autre perception du danger, ce qui explique, et d'ailleurs ils le disent très très bien dans les enquêtes, pour quelles raisons ils ne veulent pas mettre le masque. Donc ça crée un clivage générationnel, un clivage aussi entre les grandes villes et les gens à la campagne. On voit bien, quand on bouge un petit peu en France, entre ce qui se passe à Paris, ce qui peut se passer dans des villes moins exposées à la population, le rapport au masque est différent. Donc ça crée aussi un clivage entre les adultes et les enfants. On dit que les enfants sont moins à risque, mais porteurs. Donc ça, c'est extrêmement déstructurant pour une population. Et c'est vrai que le besoin actuel, c'est celui d'une continuité, d'une cohérence dans les décisions qui sont prises. Et j'allais dire dans le portage, entre guillemets, du masque. Parce que quand on voit des gens qui ont le masque sur le coude, qui après vont le mettre au niveau du visage, ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, ou qui laisse le nez découvert également, on le voit assez souvent. Ouais.
Ça n'a pas de sens. Et la population a besoin qu'il y ait du sens, pas être infantilisée, être responsabilisée, ça c'est important.
Et pas forcément culpabilisée non plus. Restez bien à l'écoute, Chloé Morin, Hélène Romano. Bertrand nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir et bonsoir à vos deux interventions. Deux personnes qui interviennent, très intéressant d'ailleurs ce qu'elles disent. Je voudrais vous faire une remarque simple.
Allez-y.
Il y a actuellement, d'après les chiffres qui sont donnés sur le site de Santé publique France, 292 clusters référencés au 4 août.
Mmh.
Et quand on étudie les chiffres et qu'on regarde les cartes qui sont proposées sur le même site, notamment le nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs Covid-19, hommes et femmes confondus, toutes tranches d'âge, on a une autre carte qui s'affiche et qui est beaucoup plus intéressante, notamment le nombre de cas décédés qui nous inquiète tous et qui nous préoccupe plus que de savoir que les personnes sont positives. Et finalement, la grande majorité des gens sont quand même sortis vivants de cette pandémie, en tout cas en France, hein, j'entends. Donc, je me pose un certain nombre de questions, comme beaucoup de Français, sur forcément les utilités des mesures barrières, même si, sur un plan civique, je respecte et j'essaie de respecter au maximum ces mesures, par respect aussi pour mes compatriotes. Je porte le masque en partie.
Vous avez des
mais,
doutes.
Voilà, il y a un trouble qui a été créé depuis le début. Mmh. Par une communication qui a été désastreuse.
Et un message totalement brouillé.
Et malheureusement, ouais. Si vous voulez, se poursuit dans l'esprit des gens. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par vos deux interlocutrices. Et je vous invite à aller regarder ces cartes dont je vous parle.
Alors peut-être tout simplement, Bertrand, que la carte du nombre de foyers, allez, disons, de foyers de contamination, ce qu'on appelle les clusters, est une carte qui est une forme de menace sur l'avenir, avec un risque de circulation plus active du virus, et que la carte des hospitalisations et des cas est celle de l'instant T, et on sait qu'il y a un décalage entre le moment où on est infecté et le moment des effets de la maladie. Est-ce qu'on serait là typiquement avec Bertrand, Chloé Morin, dans ce que vous nous évoquiez, une forme de réticence par rapport au discours dominant et au discours des décideurs. Manque de confiance.
Oui, un manque de confiance. Et puis, c'est évident. D'ailleurs, il y a eu des mesures pendant le confinement qui montraient que un grand nombre de Français ne croyaient pas, en fait, les statistiques publiques et les données qui étaient publiées. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a quand même une chose dont on peut se réjouir, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas la dimension de politisation du non-port du masque. C'est-à-dire qu'on voit d'autres pays, et notamment les États-Unis, où le non-port du masque est devenu une forme de symbole d'insoumission politique.
On le voit en Allemagne, en Angleterre. En France, il y a quand même un groupe Facebook avec 4000 personnes qui militent activement pour la résistance au port du masque. Hein.
Mais à ce stade, ça reste relativement marginal.
Absolument.
Et quand on pose la question aux gens, est-ce qu'il faut porter le masque? On a des taux quand même d'adhésion, même si ça ne se traduit pas par un port du masque effectif pour tout le monde. On a des taux d'adhésion qui sont très larges. Alors que dans certains pays, effectivement, il y a des débats qui sont virulents. Donc on peut se réjouir que au moins nous, pour l'instant, on échappe à cette dimension, disons, politicienne du débat.
Même si dans certains pays, il y a même carrément zéro débat à l'autre bout, j'allais dire, du curseur ou de l'échelle en Scandinavie notamment, même si a posteriori, il y a parfois des débats, sur, comme on l'a vu en Suède, sur ce qu'a été la stratégie initiale des autorités. Il faut rappeler quand même, Hélène Romano, que le masque, pour nous, Français, c'est un véritable basculement culturel. Et que c'est pas évident à imposer.
C'est un basculement culturel, c'est très difficile à imposer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi rappeler que la Covid, c'est quelque chose d'invisible. Et le virus, il est invisible, il est mortel. Il y a eu plus de 30 000 morts et des milliers de personnes endeuillées, il ne faut pas l'oublier non plus. Et le masque, ça vient rappeler en permanence cette réalité d'un virus qui peut tuer, même si statistiquement, il y a un grand nombre de personnes qui, comme le disait votre auditeur, ne vont pas avoir des troubles majeurs, mais il y a quand même des gens qui sont extrêmement malades. Et d'autres qui décèdent. Donc ça vient rappeler ça, c'est extrêmement anxiogène. Et dans une population qui est très fragilisée, et il y avait beaucoup d'enjeux avant le confinement qui avaient fragilisé la société française, avoir quelque chose qui est très anxiogène, ça n'est pas facile. Quand vous portez le masque, vous portez quelque chose qui vous protège, qui protège les autres, mais qui rappelle l'existence d'un virus pour lequel on n'a pas de vaccin, pour lequel on n'a pas de traitement qui fasse unanimité et qui peut vous tuer. Donc c'est extrêmement anxiogène.
Et c'est l'effet inverse alors, du coup.
Ça peut expliquer que certaines personnes soit vont le porter de façon permanente avec une peur au ventre continue, voire même une psychose pour certains. On a des troubles assez spécifiques qu'on n'avait pas par rapport au virus et aux mesures de protection qui doivent être mises en place chez certaines personnes avec des vrais troubles obsessionnels compulsifs de propreté. Ou alors, on a des gens qui, par déni, ce que je vous disais tout à l'heure, vont s'en préserver, s'en protéger et refuser de le porter parce que c'est trop anxiogène. On a du mal à respirer.
Et ça peut même être.
On ne reconnaît pas les autres.
Ça pourrait même être, Chloé Morin, on évoquait qu'il n'y avait pas forcément un mouvement politique structuré rejetant le masque, mais tout simplement des gens qui viennent dire « Moi, cette société où on est masqué, je n'en veux pas demain. » Et ça brouille le message pour le nécessaire port du masque aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a une dimension culturelle et une dimension qui ne touche pas uniquement au masque d'ailleurs, mais qui consiste à dire finalement on ne cesse de rogner sur les libertés individuelles et l'équilibre entre droits et devoirs et risque d'être durablement atteint par la maladie en fait. Et donc on peut imaginer qu'il y a des oppositions disons philosophiques et culturelles au port du masque, même si je pense que c'est quand même assez marginal.
Et c'est un débat qu'on peut aussi tous avoir de manière, j'allais dire, interne et profonde. Un jour, on dit, ben oui, il faut que je fasse attention pour le monde qui nous entoure. Et avec un peu de lassitude, de fatigue, se dire le lendemain, mais cette société, on doit être tous masqués. Elle me fait peur, elle me terrifie et je n'en veux pas demain. Question très difficile, très compliquée, sur laquelle, évidemment, surfent les autorités politiques qui sont là pour prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'il était particulièrement intéressant ce soir, non seulement d'avoir l'avis de nos auditeurs, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas pris au 3921, je remercie ceux qui nous ont appelés et écoutés. Je vous remercie surtout vous, Chloé Morin et Hélène Romano, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions.
Europe 1. Et à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus, la rétro d'actu des reporters d'Europe 1.
Et oui, nous serons aujourd'hui là où tout a commencé, justement, comment l'Est de la France a été meurtrie.